c'est l'heure de votre voyage en Amérique latine, émission présentée par Béatrix et Eduardo.
Hombre, si te digo lo que fuiste, un ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de su boca yo me vi, amor de mis amores, reina mía.
Bonjour et bienvenue à l'émission L'autre Amérique sur les ondes de Radio Libre en Périgord à Coulommiers-Chamiers et aussi de par le monde sur notre site internet. Cette émission est diffusée en direct tous les jeudis à 10h et rediffusée les mardis à 14h. Pour vous donner des informations sur le continent latino-américain, à mon côté, Béatrix. Bonjour Béatrix.
Bonjour Eduardo.
Et à la technique, Antoine. Au sommaire de cette semaine, nous allons vous parler de la France avec le Brésil, de l'Amazonie. Nous allons parler de la Colombie avec une crise diplomatique avec l'Argentine, Colombie-Argentine donc. Ensuite, nous allons parler encore de l'Argentine au sujet d'un révisionnisme du gouvernement d'extrême droite de Milei. Et si le temps nous permet, nous allons parler aussi de Chili, où on a voté une loi contre les violences envers les femmes. Et évidemment, toujours avec le temps, nous pouvons parler de l'Équateur aussi. Voilà, je laisse la parole à Béatrix pour qu'il nous parle de cette rencontre France-Brésil. Oui.
L'Amérique latine, régulièrement en arrière-plan des actualités francophones, a été bien suivie pour la visite d'État du président Emmanuel Macron au Brésil du 27 au 29 mars. Après être resté une journée en Guyane francophone, le président Macron a retrouvé rapidement le président Lula da Silva, non loin de la frontière des deux pays, au cœur de l'Amazonie. L'agenda était bien chargé car pendant les trois jours passés au Brésil, de nombreux enjeux actuels ont été abordés. La coopération, l'armement, la guerre en Ukraine et en Israël, ainsi que la solidarité mondiale dans le Brésil qui sera le siège pour le prochain G20 en juillet 2024. Il proposera à travers son ministre des Finances des solutions efficaces pour que les plus riches paient la juste part d'impôts et une aide mondiale pour les pays les plus défavorisés. Sur ce point, les présidents français et brésiliens étaient prêts pour avancer des propositions historiques. Maintenant, c'est à suivre. Au sujet de l'Amazonie, au Brésil, la région du Cerrado, victime oubliée de la déforestation, alors que la déforestation en Amazonie a atteint son plus bas niveau en 6 ans, une autre région, elle aussi riche en biodiversité, est victime d'un déboisement accru, l'immense savane arborée du Cerrado. Une délégation de peuples autochtones est à Bruxelles pour alerter sur la situation et tenter de faire intégrer la région Cerrado à la loi européenne contre la déforestation importée.
Musique de Brésil. Ah, on a envie de danser avec la musique.
On continue encore, avec Paris, oui, et Brasilia.
Voilà, c'est un extrait d'un édito, non?
Oui, extrait du journal Sud-Ouest, des retrouvailles amazoniennes. Emmanuel Macron a retrouvé Lula da Silva en voisin pour la première visite d'État d'un président français au Brésil depuis 11 ans. Car on l'oublie parfois, le géant sud-américain est le pays avec lequel la France partage sa plus longue frontière terrestre, avec la Guyane française. Avec le retour au pouvoir de Lula da Silva, le dialogue a repris de plus belle autour d'un agenda épais, alors que le Brésil accueillera bientôt la COP30 à Belém. C'est d'ailleurs dans cette région amazonienne que Lula et Emmanuel Macron se sont retrouvés autour de Raoni, le chef coutumier des Kayapos, devenu une icône mondiale de la protection des forêts et des peuples autochtones. Le retour de Lula a remis au premier plan la protection d'une Amazonie dont la France gère une portion en Guyane. Unis sur la cause environnementale, Français et Brésiliens ont bien d'autres sujets communs. Pour Paris, courtiser Brasilia permet de tendre la main au groupe des BRICS, dont le Brésil est un poids lourd. Lula cherche de son côté à rallier la France à son objectif de refonte des institutions qui régissent la mondialisation. La France est décidée à investir dans cette Amérique latine des promesses.
Oui, et parfois on oublie justement que la France a une longue frontière avec le Brésil, n'est-ce pas? Voilà, oui. Donc c'est pour cela que Emmanuel Macron essaie de, comme tu viens de le dire, de renouer un peu les liens, les échanges, surtout commerciaux. Hein. Il y a aussi une histoire de la vente d'armes pour le Brésil. Mais bon, ça c'est pour cela que on va passer encore à la musique brésilienne. Et nous allons parler maintenant de la crise diplomatique entre la Colombie et l'Argentine, n'est-ce pas, Béatrix?
Oui, si on veut. Parce que je crois qu'on parlait du monde scientifique en péril en Argentine.
Oui, oui, il y a les deux.
Oui, il y a les deux. Bon. Alors, je parle donc du monde scientifique en péril en Argentine. Le manque croissant de moyens pour les universités et les instituts publics inquiète les chercheurs locaux et internationaux. Les universités et la recherche scientifique sont au bord de l'asphyxie. Abandonnées à leur sort par le nouveau gouvernement argentin, elles font face à un manque cruel de moyens. En cause, la décision du président d'extrême droite Javier Milei de reconduire pour 2024 le budget de 2023 alors que l'inflation a augmenté. Les conséquences pour l'enseignement supérieur public argentin et les instituts de recherche se font déjà sentir, poussant tout le système vers la paralysie. La science n'est pas chère, c'est l'ignorance qui l'est, lit-on sur les panneaux qui émaillent les manifestations du monde scientifique. À la réduction drastique de dépenses de fonctionnement viennent s'ajouter le gel des salaires, qui a fait perdre un tiers de leur pouvoir d'achat aux Argentins en 2 mois, et la diminution des bourses de recherche. La situation alarme bien au-delà des frontières du pays. Ce gouvernement a lancé une véritable campagne de dénigrement de la science et des scientifiques, regrette Juliette Dumont, historienne et directrice du Centre franco-argentin des hautes études en sciences sociales.
Oui, j'ai bien retenu la phrase, n'est-ce pas, Béatrice, si tu veux me corriger.
La science n'est pas chère, c'est l'ignorance qui l'est.
Voilà, ouais, c'est tout à fait ça. Et apparemment, le gouvernement d'extrême droite de Javier Milei en Argentine donc, veut ignorer la science. Et l'ignorance, peut-être, c'est une démonstration d'ignorance du gouvernement de Javier Milei, j'insiste, d'extrême droite. Alors, dessert de tango argentin, mais il y a avec l'Argentine un problème aussi avec la Colombie, n'est-ce pas?
Oui, et une crise diplomatique. 27 mars, la Colombie a ordonné l'expulsion de diplomates argentins. C'est à la une de la presse colombienne et argentine. Officiellement, on ne connaît pas le rang des diplomates qui seront contraints de quitter le pays. Le journal El Espectador signale l'expulsion de l'ambassadeur et de son équipe. En tout cas, cette décision a été prise après des insultes proférées par le président argentin Javier Milei à l'égard de son homologue colombien. Lors d'une interview accordée à la chaîne CNN, Milei a qualifié Gustavo Petro d'assassin et de terroriste, ni plus ni moins. Selon la chaîne nord-américaine, Milei s'en est pris également au président mexicain López Obrador, le qualifiant d'ignorant. Pour l'instant, il est impossible de dire quelles seront les conséquences de l'expulsion des diplomates, mais le journal argentin Clarín voit les deux pays déjà au bord d'une rupture diplomatique. Le journal signale que ce n'est pas la première fois que Milei insulte Gustavo Petro, qui avait comparé son homologue argentin à Hitler. Donc les attaques verbales entre les deux dirigeants ne datent pas d'hier.
Mais c'est presque normal, normal entre guillemets, parce que évidemment Milei c'est d'extrême droite et le président colombien Petro c'est un homme de gauche.
Mais pas d'extrême quand même.
Non, c'est pas un extrême. Non, mais c'est un homme de gauche qui a beaucoup fait pour essayer de mener la paix en Colombie face à ces groupes révolutionnaires. Mais la Colombie, maintenant, on peut dire qu'il avance de façon progressiste, on pourrait le dire, tandis que, selon moi, c'est un ami très personnel, l'Argentine recule. Et il revient un peu presque sectaire d'extrême droite. C'est beau le tango, mais nous continuons à parler de cette gouvernement d'extrême droite en Argentine. Et il y a ce qu'on appelle révisionnisme, n'est-ce pas, Béatrix ?
Oui, il est accusé de révisionnisme, oui. Par dizaines de milliers, des Argentins ont envahi les rues de Buenos Aires et d'autres villes de province le dimanche 24 mars, jour du souvenir des victimes de la dictature militaire de 1976 à 83. Les marches étaient teintées d'accusations de révisionnisme du gouvernement d'extrême droite présidé par Milei. Pendant de longues heures, le centre de Buenos Aires a été paralysé, plusieurs avenues menant à l'emblématique place de Mai regorgeant de marées humaines, dont l'un des rassemblements les plus suivis des dernières années en ce jour de la mémoire. Ce 24 mars commémore le coup d'État de 1976, portant au pouvoir la junte militaire qui allait faire 30 000 morts et disparus, selon un bilan des organisations de droits humains. Un bilan désormais de plus en plus contesté par l'exécutif du président Milei. Lui parle de moins de 9 000 morts et de sa vice-présidente Victoria Villarruel, proche des milieux militaires, fille et nièce d'officiers. Nous refusons le négationnisme du gouvernement et l'apologisme du terrorisme d'État. Ils étaient bien 30 000 à répliquer Adolfo Pérez Esquivel, qui a 92 ans, prix Nobel de la paix, à la foule réunie place de Mai.
Et oui, et il ne faut pas oublier, Béatrice, que nous avons eu la chance de voir ce film documentaire. Des témoignages des victimes de la dictature, n'est-ce pas ?
Sur le procès des militaires.
Des militaires. Ouais. Ouais. Donc, quand Milei, le gouvernement d'extrême droite de Milei, essaye de refuser le nombre des victimes, et il va contre toutes les preuves qui sont vraiment confirmées. Des preuves confirmées de la disparition et l'assassinat de 30 000 personnes.
Et torture.
Et torture aussi, voilà. Mais bon, c'est pour cela que parfois on préfère la musique. Thank you. Mais nous allons passer peut-être à une nouvelle plutôt positive, optimiste, n'est-ce pas, Béatrix ?
Oui, pour le Chili, il s'agit d'une loi qui est intégrale contre les violences faites aux femmes. Une bonne nouvelle pour les féministes chiliennes qui œuvraient depuis 7 ans à ce projet. Depuis son élection en 2022 à la tête du Chili, le président Gabriel Boric avait assuré que cette loi contre les violences était une priorité législative pour le pays. 2 ans après, cette promesse se concrétise enfin. Elle est le fruit d'un travail acharné des féministes, ex-ministres, parlementaires et du ministre des Droits des Femmes qui travaillent avec un seul objectif, inscrire cette loi dans la constitution chilienne. La loi étend son champ d'application aux délits et agressions qui surviendraient en dehors des relations familiales ou affectives. Le texte donne également une définition plus précise de la violence de genre. Sera considérée comme telle toute action ou omission causant la mort, des blessures ou souffrances à une femme en raison de son genre, sans distinction du lieu où elle se trouve. La loi entend par violence aussi bien des violences physiques que psychologiques, sexuelles ou économiques. C'est avec beaucoup d'émotion que cette nouvelle a été reçue au Chili. La ministre des Droits des Femmes, Antonia Orellia, a salué la lutte de toutes les femmes qui a permis d'adopter une telle loi.
Merci Béatrix. Et nous allons entendre une chanson instrumentale d'une Chilienne qui s'appelait Violeta Parra. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Voilà la chanson de Violeta Parra, cette chanteuse chilienne. Et comme le temps nous permet, nous allons parler brièvement du
droit à l'IVG en Équateur.
Voilà.
Les féministes équatoriennes en appellent à la Cour constitutionnelle. Un collectif réunissant 8 organisations militantes veut obtenir l'élimination de l'article du Code pénal criminalisant le recours à l'avortement. Le mouvement Liberté Juste a sollicité la plus haute juridiction du pays pour déclarer l'inconstitutionnalité de l'article 149 du Code pénal qui prévoit une peine d'1 à 3 ans de prison pour toute personne pratiquant une IVG. La Cour doit reconnaître que l'avortement n'est pas un crime, qu'aucune femme ne devrait être privée de sa liberté pour avoir avorté, a déclaré Maria Isabel Cordero, porte-parole du mouvement. La criminalisation du droit à l'IVG a un impact majeur en matière de justice sociale, parce que celles qui souffrent des conséquences de cette criminalisation sont majoritairement des femmes pauvres, des femmes indigènes, des jeunes, celles qui ont moins de ressources pour accéder à des avortements sûrs réalisés de façon clandestine, a insisté Maria Isabel Cordero. Un rapport publié en 2021 par l'organisation Human Rights souligner les néfastes conséquences des lois du pays qui pèsent sur les vies humaines en augmentant la mortalité, en empêchant les femmes et les jeunes filles d'accéder aux services essentiels, en sapant les efforts visant à promouvoir la santé sexuelle.
Voilà, donc nous allons finir avec une information aussi positive d'Équateur. Et nous avons trouvé aussi une musique bien équatorienne. Notre émission L'autre Amérique touche à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour continuer à découvrir ou redécouvrir des aspects de ce continent. Merci à Béatrice qui nous a livré des infos sur l'Amérique latine, évidemment. Et merci à Antoine à la technique. Muchas gracias, hasta pronto.